Bonsoir à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de grands entretiens avec les artistes qui font l'actualité culturelle ce soir avec Mélanie Manchot.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, taper.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il.
Marie Richeux.
Et c'est que le monde dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseur.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Regarder les corps marcher, se tenir, danser, rêver, dormir, grandir et évaluer la bonne distance pour en donner la bonne image jusqu'à ce que l'image de ces corps-là, un par un ou en groupe, finisse par composer une sorte d'image du présent, une image qui dérange l'ordre, une image hétérogène. C'est ce que vous faites depuis environ 20 ans, Mélanie Manchot. C'est en tout cas ce que l'on peut voir dans une forêt d'écran ou un plan de ville, qui sait, à l'occasion de la grande rétrospective consacrée à votre travail au Macval de Vitry-sur-Seine. Selon le rideau noir que l'on pousse pour y entrer, on tombe nez à nez avec votre fille, filmée en Super 16 en pleine transformation, ou encore face à face avec des agents de sécurité en plein striptease, exhibant plus ou moins timidement des corps nus, bodybuildés, ou encore dans la rue, votre voix en hors-champ demandant aux passants s'ils ou elles veulent bien vous donner un baiser. Open Ended Now est visible jusqu'au 24 février au Macval de Vitry-sur-Seine, donc bonsoir à vous Mélanie Manchot. Bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup.
Vous vivez et vous travaillez à l'étranger, donc on profite de votre passage en région parisienne pour vous recevoir et évoquer donc une grande partie de votre travail, puisque c'est une rétrospective qui concerne des œuvres de 1998 à des œuvres toutes récentes de 2018. Et on peut commencer par discuter ce titre que vous choisissez, Open Ended Now. Je parlais, moi, de la manière dont cette exposition a vraiment convoqué ce que c'est qu'un corps contemporain, corps social ou corps individuel. Et il y a ce mot « now » dans le titre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, le titre « Open-ended now » devient d'une philosophe russe qui s'appelle Mikhail Bakhtin. Et lui, il parle beaucoup, par référence à la littérature principalement, sur des idées que le « now », le « maintenant » est toujours ouvert. C'est-à-dire que le « maintenant » est toujours en train de devenir, de se développer, de se définir à chaque moment de nouveau, de nouveau, de nouveau. Pour moi, ce titre est très important, pas justement sur les idées de temporalité, mais aussi sur des idées d'un espace physique, aussi que sur les idées des développements d'identité qui sont très présents dans toutes les œuvres de cette exposition. Et pour moi, Bakhtin est, même qu'il est un philosophe ancien, un peu plus, c'est pas quelqu'un qui est de maintenant. Pour moi, il est très 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 urgent parce qu'il parle de cette ouverture dans tous les questions. Et dans l'exposition, cette ouverture se manifeste dans les décisions physiques, comme l'expo est construite comme dans une scénographie très ouverte, perméable, où tous les œuvres sont en dialogue avec les autres, mais aussi sur la question du temps, le temps qui est dans chaque œuvre, mais aussi le temps du spectateur, c'est-à-dire les questions comment les spectateurs font des décisions dans l'exposition, de se promener, de prendre des décisions actives de leur temps dans l'exposition.
On va y revenir sur cette question de la scénographie parce qu'en effet, elle induit cette scénographie des déplacements, pourquoi pas des danses d'ailleurs, on verra, des moments où on s'arrête, des moments où on marche. Mais pour continuer à interroger ce open-ended now, vous diriez que vous, Mélanie Manchot, le now, le présent, quelque chose du contemporain, ça agite votre création depuis le départ, que c'est la question que vous posez dans ce que vous faites?
Oui, et cette now, cette question de maintenant, pour moi, c'est plutôt une question sur les questions d'individualité, de subjectivité, parce que la plupart des travaux s'occupent de la question comment nous, comme individus, peuvent trouver une définition de nous-mêmes comme individus, mais en même temps comme individus qui toujours fait des décisions autour des autres. Alors c'est une définition de soi-même qui se déroule tout le temps. Alors le now, le maintenant, est dans notre corps et dans notre âme, dans notre être. Et c'est toujours en train de se redéfinir. Alors pour moi, l'exposition et les œuvres dans l'exposition s'occupent vraiment d'une façon principale de cette tension, de cette dynamique entre être un être humain individu, singulier, mais en même temps toujours en tension, en relation avec les autres, avec une vie sociale, avec notre, comme individu humain, nous sommes des êtres sociaux. C'est presque impossible de ne pas avoir une vie collective. Alors cette maintenant se déroule dans nous-mêmes, toujours à chaque moment.
C'est quelque chose que vous mettez en scène de manière très pratique, très sensible, cette relation avec les autres. Je pense à une œuvre que je citais en introduction, qui est l'une de celles par lesquelles on peut commencer, mais on n'est pas obligé. Elle se situe comme dans une sorte de container en bois. On entre, donc il y a l'idée quand même de l'intériorité, et puis on est face à un moniteur avec des casques, et on entend votre voix hors champ qui traverse la ville et qui interroge des passants en demandant s'ils veulent bien, il ou elle, vous donner un baiser. C'est l'une des œuvres les plus anciennes qu'on peut voir dans cette rétrospective Mélanie Manchot. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le moment de fabrication et d'élaboration de cette œuvre-là?
Oui, c'est vrai, c'est une des œuvres les plus anciennes. C'est aussi le premier vidéo que j'ai jamais fait. Et juste pour donner un peu le contexte de cette œuvre-là, avant de commencer à travailler sur For a Moment Between Strangers, j'avais passé...
Between Strangers, c'est le nom de cette œuvre.
Oui, c'est ça. C'est un moment qui se passe entre les gens qui ne se connaissent pas. Alors, For a Moment, pour un instant, entre les gens qui ne se connaissent pas. Et avant de travailler là-dessus, j'ai passé 5 ans de travailler exclusivement avec ma mère. J'ai fait des photos avec ma mère. Elle a toujours nu et c'était un travail très très fort où j'ai interrogé le corps des femmes, les corps des femmes âgées, la question de âge et les questions que les femmes deviennent invisibles à un certain moment dans leur vie. Des questions très féministes, si vous voulez. Et quand nous avons fini ce grand projet, je pensais qu'il me fallait, si vous voulez, redéfinir la question de l'intimité. Comment est-ce qu'on peut travailler sur une idée d'intimité, mais à ce moment-là, pas avec quelqu'un que je connais très bien, mais avec des gens que je ne connais pas du tout. Et à partir de ces travaux pendant 5 ans avec une seule personne, j'ai commencé avec commencer à travailler avec beaucoup de gens pour 2 ou 3 secondes. Alors la question, c'était vraiment une question des moments intimes. Est-ce que c'est possible de proposer à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et qu'on rencontre sur les rues, à ce moment-là, précisément par hasard, de passer un moment ensemble, un moment intime, et quel est le geste le plus intime? C'est de s'embrasser, de se baiser. Et le baiser est un geste très compliqué, si vous voulez. On s'embrasse, on donne les baisers pour des raisons très différentes à des gens différents. Et je voulais savoir, c'est vraiment une question très ouverte, si c'est possible de créer un moment, un instant, avec des gens sur les rues qui a la qualité d'être intime. Et là, je suis me promener dans les rues à Londres, à Berlin, à New York et à Los Angeles, des endroits assez différents de la côté culture, pour savoir comment les gens vont réagir à cette question. Et les gens ont réagi des façons très différentes. Soit ils se sont Ils étaient amusés, ils étaient un peu surpris, ils se sont fâchés avec moi. Et les réactions étaient d'une diversité énorme.
Et c'est pour ça que je parlais d'une image très hétérogène que vous semblez vouloir vraiment proposer, Mélanie Manchot, parce que par exemple dans ce petit film-là, en effet, on multiplie des réactions très très différentes. Ça peut aller de l'éclat extraordinairement joyeux sur le visage d'une jeune femme qui dit évidemment, bien sûr, et en vous le donnant immédiatement le baiser, ou bien un homme qui va demander d'abord s'il est filmé et où. D'où part la petite caméra cachée, ou alors une femme, pour en revenir à ce que vous disiez du travail précédemment mené avec votre mère, qui va dire « mais comment voulez-vous un baiser d'une femme aussi âgée avec le corps que j'ai ?» Et ce qui est assez intéressant, c'est que comme ça, juste avec une question très simple, finalement les personnes vous ont très rapidement parlé d'elles.
Absolument, c'est vraiment intéressant. Comment exactement avec une question, une proposition très très simple et c'est comme une phrase. Est-ce que vous voulez me donner un baiser? Les gens ouvrent beaucoup sur eux-mêmes.
Même pour refuser.
Absolument. À mon avis, les refus sont plus intéressants que les moments où les gens disent oui oui volontairement. Mais les refus parfois sont très compliqués. Il y a un étudiant de médecin à Los Angeles qui donne une réponse très très compliquée que ce baiser c'est une ouverture dans le corps, alors il ne donne pas de baisers à des gens qu'il ne connaît pas et font tous une explication très 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 compliquée, et dans cette façon de répondre il ouvre beaucoup sur soi-même, il me donne beaucoup des informations sur soi-même.
Est-ce que votre travail, y compris d'un point de vue purement artistique, Mélanie Manchot, avait besoin de, comme ça, exploser, de sortir dehors, de sortir dans la rue, après toutes ces années passées avec votre mère? Est-ce que c'était aussi une sorte de rupture ou de virage dans votre pratique artistique?
Oui, je pense que c'était à ce moment-là, c'était vraiment nécessaire pour moi, pour développer, d'aller juste à l'autre côté de cet extrême, de travailler avec quelqu'un très précis, très très proche, dans le studio, d'aller sur les rues et d'encontrer beaucoup de gens que je n'avais jamais rencontrés, et de me mettre dans un espace. Ça c'est important, et pour moi c'est toujours présent, un espace qui et aussi défini par un risque. Alors, travailler avec ma mère, travailler avec quelqu'un tellement proche qui est très important pour moi, mais demander beaucoup d'elle, ça aussi veut dire prendre des risques. Mais un risque totalement différent, comme par comparaison, être dans les rues et parler avec des gens que je ne connais pas du tout et demander de leur embrasser, c'est aussi un risque. Et côté risque est très important dans tous les travaux différents, dans tous les projets différents. Et je retourne tout le temps à la question, quand je commence un projet, où est-ce que je peux trouver cet élément de risque qui est important pour moi pour réfléchir de nouveau.
Aussi, le risque entendu comme une forme d'audace, ça peut être un risque très joyeux. On reviendra tout à l'heure à la vidéo où vous demandez à des agents de sécurité de se déshabiller. On sent que ça peut être aussi eux qui prennent le risque dans l'espace public. Mais peut-être pour continuer d'installer comme ça le décor avec vous, Mélanie Manchot, de cette grande rétrospective, on va entendre le réalisateur Lars von Trier parler de son film Dogville, dont je rappelle qu'il était principalement basé sur un choix esthétique fort de faire figurer une ville, Dogville, simplement par des traits de craie au sol.
Je pense que le cœur du cinéma, ce doit être cette joie toute simple, celle de l'enfance. Quand on accepte cette règle du jeu qui dit « ce trait de craie par terre, c'est ma maison ». Or, de nos jours, on ne voit pas beaucoup de traits de craie au cinéma. Des films comme Le Seigneur des Anneaux sont tellement énormes, tellement bourrés d'effets spéciaux, que le spectateur, enfin, en ce qui me concerne, se languit de revenir à cette petite idée basique. Je dessine une ligne et je dis « c'est ma maison ». Il y a beaucoup de choses dans le film qu'on ne peut pas faire au théâtre, comme les gros plans. C'est un mariage entre César. Ceux qui disent que ce n'est pas du cinéma ne me dérangent pas. Je ne suis pas spécialement destiné à faire du cinéma. J'utilise la technique du cinéma que je connais et j'y introduis d'autres techniques que je crois connaître, celles du théâtre, de la littérature. Je suis juste quelqu'un d'impatient, j'ai envie d'essayer de changer la manière dont on raconte une histoire, dont on traite un personnage.
C'est donc la voix du cinéaste Lars von Trier, je crois reconnaître celle de Vincent Josse qui le traduirait en 2003. Cette voix-là pour évoquer la scénographie que vous avez choisie, Mélanie Manchot, et aussi ce que dit Lars von Trier d'une forme d'impatience dans la facture, de retrouver un geste assez spontané, assez simple, éventuellement lié à l'enfance.
Alors pour moi, la scénographie de Docville est très importante et m'a vraiment impressionné dès le moment où j'ai vu le film et je le revois tout le temps. Dans la scénographie au Magval, c'était très important de créer quelque chose, de créer une scénographie très ouverte, où les œuvres sont en dialogue l'un avec l'autre. Et si on présente tellement beaucoup 10 installations de vidéo ensemble, c'est pas toujours facile de ne pas créer
des cubes pour les isoler.
Exactement,
quoi.
Pour les isoler l'un à côté de l'autre à cause du son. Mais là, c'était vraiment important de créer quelque chose beaucoup plus ouvert, où chaque œuvre peut créer son propre espace, mais en même temps être en dialogue avec les autres. Et pour moi, l'idée de ville qui est créée avec des moyens très très simples, avec dans Docville avec que le scotch sur le sol, et dans notre mise en scène, dans notre scénographie, avec des sols différents, avec des petites murs, demi-murs, avec des structures de sièges différents, avec des grilles de murs différents, était la même démarche de créer l'idée d'une ville pendant la nuit, parce que l'éclairage est assez sombre dans tout l'espace. Et si on entre, il y a deux entrées dans la scénographie, et les deux entrées, comme vous avez dit, donnent sur des œuvres différentes, des propositions différentes. Mais on entre dans une ville de nuit. L'éclairage, c'est vraiment, on a travaillé sur l'idée que c'est une ville pendant la nuit. Il y a des rues et il y a juste une, si vous voulez, un bâtiment, une tour très, très grande de 6 mètres à 6 mètres à 6 mètres de hauteur. Mais tous les autres œuvres, ils sont ouverts et on peut entrer dans chacun et en même temps voir les autres.
Et entendre les autres. Et ça, c'est assez important parce que moi, j'ai vraiment trouvé que c'était l'une des images aussi les plus fortes, c'est s'extraire des œuvres les unes des autres et simplement voir ça comme une installation en tant que telle, c'est-à-dire cette espèce de forêt d'écran. Mais puisque vous parlez de une qui est isolée et vous parlez d'une ville de la nuit, on peut-être parler d'une œuvre très récente, Mélanie Manchot, où en effet, c'est une vidéo en noir et blanc dans une ville, une très grande cité, la nuit, extrêmement urbaine, très bâtie, avec un cheval pommelé, gris, qui est comme ça aux aguets. Et d'un seul coup, en vous écoutant, je me dis, c'est comme si les spectatrices et les spectateurs étaient le cheval aux aguets dans la ville de nuit, au milieu de votre rétrospective. Est-ce que vous pouvez parler de cette œuvre-là?
Alors, cette œuvre-là s'appelle Cornered Star. Et c'est très récent, en fait. C'est la première fois que la vidéo est montrée ici au Magval. Et là, j'ai travaillé en Allemagne dans une ville assez petite qui s'appelle Mal, au centre des anciennes mines. Et cette ville était très riche à un certain moment, dans les années 20. Et pendant ce temps-là, la ville a commandé une architecture brutaliste pure. Et on a un grand espace, et autour de cet grand espace ouvert, il y a une architecture brutaliste, c'est l'hôtel de ville, le musée, la librairie, ce sont des grands bâtiments brutalistes. Mais à partir des années 80, la ville, comme beaucoup de villes qui étaient industrielles, et là, dans la période post-industrielle, la ville est devenue de plus en plus pauvre et tous ces espaces et les bâtiments, ils sont maintenant de plus en plus vides. Et la ville est dans une situation assez compliquée financièrement, du côté économique, mais aussi du côté démographique, parce que les jeunes, ils ne trouvent pas de travail. Alors, c'est vraiment une situation assez difficile. Dans la même ville, et c'est un peu par hasard, se trouve le ferme d'un équestrien le plus célèbre en Allemagne. Et c'est là où tous ces chevaux olympiques habitent, si vous voulez. Et j'ai pris contact avec lui et proposé comme travail avec une cheval olympique. Alors, très fort, très élégant.
Tellement beau.
Et vraiment très, très beau. Et de le mettre justement dans cette architecture brutaliste toute seule. Et le film, c'est exactement ça. Ce sont des tableaux assez, si vous voulez, photographiques parce que la caméra est fixe. Et le cheval se trouve au milieu de cette architecture dans la nuit et dans le crépuscule quand le matin arrive. Et c'est une lumière très, très gris, assez lourd, dans cette architecture aussi assez lourd, avec cette cheval très, très élégant. Et l'œuvre vraiment existe comme une œuvre de vidéo, mais aussi de son. Le son est très, très important pour cette vidéo. J'ai travaillé avec une musicien anglaise qui s'appelle Beatrice Dillon, qui en fait va, on peut parler en plus de ça, faire un concert au Markwall le dernier jour. Et elle a créé une bande sonique très, très spécifique pour l'œuvre qui, et pour moi, c'est vraiment une œuvre qui existe autour des images aussi qu'autour du son.
Parce que pour dire deux, trois mots du travail que fait cette musicienne, c'est comme si en fait elle soulignait avec le son et avec la musique le moindre rapport sensoriel du cheval avec l'architecture brutaliste autour. Et comme on sait que les chevaux sont extraordinairement sensibles à la moindre modification de leur entourage, du coup ça donne des modifications en effet très, très subtiles dans la bande sonore qui nous rend nous aussi comme si on était aux aguets dans cette grande architecture. Peut-être pour terminer de parler de la scénographie avec vous, Mélanie Manchot, vous disiez on a essayé de recréer des espaces presque d'intimité autour de chacune des œuvres et des installations vidéo. Et en fait, finalement, ces espaces-là sont aussi des sortes d'espaces d'invitation, à chaque fois d'une manière différente. Et on est notre corps et notre regard de spectatrice et de spectateur est mis en jeu d'une manière assez différente. Je pense à une vidéo où on est quasiment en plein pied, l'écran directement au sol, où on voit des gens danser et les casques sont sans fil. D'un seul coup, on se demande si on n'est pas nous-mêmes invités à prendre part à la danse.
C'est exactement ça. Et je suis très heureuse que les casques soient en fait exactement les mêmes casques que dans le film. Alors, cette pièce s'appelle Dance All Night London. Et c'est la deuxième fois que j'ai travaillé avec la danse dans un espace public assez grand. La première fois, c'était à Paris, ici, à l'invitation, en fait, de Franck Lamy et Alexia Favre, qui travaillent au Markwall et qui, à ce moment-là, étaient des commissionnaires de Nuit Blanche. Et la deuxième, Dance All Night London, était faite l'année dernière à Londres. Et là, j'ai travaillé avec 10 compagnies de danse différentes. Chacun représente une forme de danse différente, soit le tango, le hip-hop, le flamenco, le rock'n'roll. Et chaque de ces compagnies de danse existe dans un endroit très près où j'habite à Londres, dans l'Ouest. Et ils sont dansés dans les rues et se sont retrouvés se retrouver dans les rues et danser ensemble pour arriver dans un endroit où on avait installé un tapis de danse temporaire. Et là où ils sont tous arrivés, tous les 10 compagnies de danse, ils ont dansé ensemble pendant 10-15 minutes et après, ils ont donné des cours de danse pendant toute la nuit pour chacun qui venait. Et tous ces cours de danse se sont passés avec des casques. Alors, à chaque moment, il y avait 2 ou 3 cours qui étaient enseignés en même temps, l'un côté de l'autre. Alors, à un certain moment, on pouvait danser le danse afro-cubain à côté du flamenco, à côté du hip-hop. Et c'était pour ces raisons nécessaires de le faire avec les casques. Et pour moi, d'installer cette œuvre avec les mêmes casques, c'est une invitation de se rendre vraiment dans ce moment-là, d'entrer dans les sons et l'atmosphère de cet événement qui s'est passé à Londres pendant toute une nuit.
On entend un peu ici Mélanie Monceau, le son des pas dans la ville et les danseurs. On les écoute un peu ?
Administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Regardez danser les gens et de temps en temps, je coupe le son. Et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux et Mélanie Monceau.
Mélanie Monceau, on écoutait donc la bande-son de votre vidéo, Dancing All Night London, et puis juste après Philippe Catherine qui adore regarder les gens et couper le son. Non, parce que c'est évidemment intéressant de voir cette vidéo de personnes qui dansent en entendant uniquement le bruit de leurs pas et pas la musique. Moi j'ai eu le réflexe très rapidement, que ce soit pour Londres ou pour Paris, de regarder la date de réalisation de ces vidéos, et je me suis rendu compte que mon réflexe à voir des gens danser dans l'espace public la nuit était de savoir si ça se situait, oui ou non, à proximité d'attentats. Est-ce que c'était moi et ma conscience, ou est-ce qu'il y a quelque chose de votre geste qui m'a emmenée vers cette question-là, Mélanie Monceau ?
Non, c'est absolument correct. Particulièrement à Londres, l'événement était juste un mois et une semaine après un grand attentat. Et en fait, on a fait...
2017, du coup.
Oui. Et en fait, le premier... moment où on a dansé dans les rues pendant la nuit, c'est le jour après l'attentat sur London Bridge à Londres. Alors c'était vraiment très très proche de ce moment-là. Et tout l'événement pendant Art Night, qui est le pendant de Nuit Blanche ici, c'était vraiment la question: comment va le public réagir à un événement grand avec beaucoup de gens dans des espaces un peu serrés, un mois après un attentat. Et c'était pour moi une affirmation très très forte que les gens ont décidé de venir, de danser, d'avoir une célébration collective avec des gens qu'ils ne connaissent pas du tout, et d'être là, peut-être comme une affirmation que c'est important d'être dans les espaces publics d'une façon célébratoire. Et c'était vraiment parce que, à mon avis, il y avait deux possibilités. Soit il n'y a personne parce qu'ils ont peur, soit il vient beaucoup, 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 beaucoup parce que c'est important de réaffirmer notre position envers les espaces publics.
Et ce qui est assez intéressant, Mélanie Monceau, c'est que vous ne faites pas du tout mention de ce surgissement de la violence et de ce calendrier-là. Et pourtant, moi, j'y viens immédiatement. Ça veut dire que par l'installation de vos œuvres, par le fait que vous filmez dans l'espace public la nuit, vous savez que vous allez convoquer ça dans notre imaginaire? Vous savez que ce à quoi c'est rattaché en nous, ça va être ça?
Je pense que, à mon avis, la plupart des œuvres sont une multiplicité ou de un peu le regarder de multiplicité de perspectives. Et c'est vraiment important pour une œuvre de, d'avoir cette multiplicité. C'est-à-dire, pour moi, c'est présent. Et pour moi, je savais très, très bien qu'il y avait un côté très politique. Il y a beaucoup des œuvres où j'ai travaillé dans des espaces publics avec beaucoup des gens. Il y a une autre dans l'exposition qui s'appelle Vogue Square où j'ai travaillé avec 1000 enfants. Et encore une fois, c'était plus ou moins 2 mois avec un attentat en Allemagne. Et là, cette œuvre se passe en Allemagne. Et là, encore une fois, j'ai parlé avec beaucoup des parents qui étaient un peu inquiètes d'avoir leurs enfants, dans une situation de grand groupe, un spectacle de masse, si vous voulez, après un attentat tellement récent. Alors pour moi, c'est toujours présent, la question politique des espaces publics, c'est toujours présent. Et j'espère que les spectateurs peuvent le sentir, mais je pense que c'est pas nécessaire pour moi de le dire directement. Alors parce que si moi je le dis toujours directement,
ça va annuler.
Ça enferme, exactement.
Ça enferme. Et rétrécir. Ça veut dire que dans ce caractère politique que vous donnez à votre travail, Mélanie Manchot, on peut aussi convoquer les images de révolution, les images de prise d'espace public. On vient de traverser un week-end particulier en France et à Paris singulièrement. Ça veut dire que dans les vidéos que sont Walk ou Dance All Night, on peut aussi voir des débuts d'émeutes, par exemple.
Je pense que l'espace public et comment nous comporte dans l'espace public est toujours présent dans tous les travaux.
Et l'espace que vous faites.
Public, oui. Alors dans mes œuvres, cette question de comportement dans l'espace public, l'autorité de l'espace public, la question si les espaces publics sont en fait publics ou privés ou semi-privés, et de qui en fait est autorisé de diriger un espace public est toujours présent dans le travail que je fais. Et c'est une question, à mon avis, de plus en plus urgente parce que les espaces sont de plus en plus réglés, codifiés, autorisés par une autorisation de plus en plus politique. Alors, oui, c'est toujours présent dans ces œuvres-là.
Il y a une forme, il y a un médium, un support extrêmement présent dans cette rétrospective, Mélanie Manchot, c'est l'écran, presque comme un personnage, que ce soit des écrans tirés façon écran de cinéma, que ce soit des tout petits moniteurs, il y a vraiment quelque chose comme une sorte de... Oui, d'un objet en soi qui nous parle avant même que les images y soient diffusées. Et on va entendre le réalisateur Yann Beauvais parler du travail d'Andy Warhol et de ses screen tests.
L'objet des screen tests, et ce qui est de passionnant, c'est que Warhol en a fait de 1963 à 67, en même temps qu'il faisait d'ailleurs ses photo booths. Il y en a 500 répertoriés jusqu'à présent. Et il pouvait les combiner et les monter dans tous les sens qu'il voulait, les projeter de temps en temps. Et l'un des projets qu'il avait, c'était d'en faire des portraits vivants et de les vendre séparément, un petit peu comme les Polaroïdes, mais des portraits en mouvement que l'on aurait vu sur des tables Super 8. Là, l'hommage à Marcel Duchamp est intéressant. Il a été fait en 67, dans la mesure où il pose à Marcel Duchamp les mêmes conditions que ceux qu'il demandait à tous ses autres participants, c'est-à-dire... Vous en faites le moins possible, mais vous essayez quand même, cependant, d'interagir avec la caméra.
Marcel Duchamp nous fait un clin d'œil, justement.
Fait plusieurs clins d'œil. Il s'amuse béatement, je pourrais dire. Se joue assez bien du fait qu'il a un très fort éclairage dans la gueule. Et ce qui est véritablement aussi quelque chose de caractéristique de Warhol, c'est que ses protagonistes ne sont jamais mis à l'aise. En fait, ils doivent endurer le filmage.
Endurer le filmage par Warhol lui-même. Il est question donc des screen tests de Warhol par le réalisateur Yann Beauvais dans Une vie, une œuvre consacrée à Andy Warhol et diffusée en 1996 sur France Culture. Mélanie Manchot, je parlais de tous ces screens, de tous ces écrans, mais peut-être particulièrement de cette espèce de multiplication d'écrans quand il s'agit de filmer votre fille en train de grandir, Billy. Alors d'abord, votre rapport à cet objet-là.
La question des écrans différents est très importante. Et la question comment diffuser des images vidéo ou film, pour moi, est toujours très spécifique. C'est-à-dire, c'est toujours une question ou une décision qui est faite pour chaque œuvre spécifique. L'œuvre que j'ai filmée avec ma fille, Billy, qui s'appelle 11-18, était filmée pendant 7 ans, commençant avec quand elle avait 11 ans et on a fini quand elle avait 18 ans. Et là, c'est présenté sur 9 moniteurs différents. Chaque moniteur est différent et c'est vraiment comme chaque moniteur est un protagoniste, un caractère. Et chacun, c'est-à-dire le premier rang, la deuxième, la troisième, un écran différent, une taille différente, une marque de moniteur différente. Et pour décrire un peu comme cette œuvre a commencé, c'est vraiment à partir du question comment on peut définir une identité, particulièrement quand l'identité d'un enfant qui développe en adulte est en train de changer et de développer très très fortement. Alors la question de comment, si vous voulez, définir l'identité est très présente dans la philosophie depuis des centaines d'années. Et il y a un philosophe qui s'appelle Locke en Angleterre qui a défini l'identité par la continuité physique et la continuité de la psychologie. Et et en même temps, il y a une idée qui vient de la science un peu plus populaire que chaque 7 ans, on change toutes les cellules de notre corps, c'est-à-dire après 7 ans, on n'est plus le même corps. On a un corps complètement différent. Et ça, c'était le commencement pour demander la question. Si on regarde un enfant à 11 ans, qui après 7 ans a un corps différent, mais qui aussi après 7 ans, quand elle devient 18 ans, on peut spéculer être une être différent de la côté psychologique. Comment est-ce qu'on peut regarder ces portraits d'une façon de continuité? Alors j'ai proposé à ma fille de faire un portrait sur film même. Alors c'est pas une vidéo, c'est vraiment du film. Et chaque mois dans mon studio, chaque mois pendant 1 minute, c'est exactement la même position où elle se met, la caméra restée dans la même position pendant 7 ans. Et c'est le même fond gris derrière elle. Et on a filmé 1 minute chaque mois. Alors pendant 7 ans, ça fait 84 minutes qui sont après installées dans une installation comme c'est au moment au Macval de 18 minutes. Et c'est vraiment la question, si on regarde tous ces portraits-là, est-ce qu'on regarde la même personne?
Oh bah franchement, très sincèrement, il y a justement la question de l'étrangeté qui s'insinue et on n'est pas toujours sûr que ce soit la même jeune fille. Et en effet, on voit la transformation et je pense que c'est, pour en revenir à l'objet de l'écran, je pense que c'est que ça oriente notre regard et notre pensée que de devoir regarder un visage sur un écran et un visage sur un autre écran et un visage plus proche de nous et plus éloigné de nous. D'un seul coup, ça nous met sur la piste d'identités différentes.
Oui, exactement. Et c'est la façon d'installation et une représentation physique de la temporalité, c'est-à-dire le temps qui est plus loin de nous, quand elle était 11 ans, et plus loin physiquement. Alors, les écrans les plus vers derrière, ce sont des images les plus anciennes. Et les écrans les plus proches de nous, du visiteur, du spectateur, c'est le temps le plus proche de nous, c'est-à-dire quand elle avait 18 ans. Et c'est vraiment une question, si vous voulez, de représentation, des questions de la psychologie et de la philosophie. Et vous avez fait référence à Warhol. C'est vraiment absolument, c'est aussi un hommage au screen test de Warhol qui l'a fait dans son usine pendant les années 60. Parce que la façon de filmer est très, très proche de ces images. De l'autre côté, c'est aussi intéressant que exactement pendant ce temps-là, on a commencé en 2008 et terminé en 2015, que c'était vraiment le commencement du selfie et du culture du selfie pendant ce temps-là. Au moment où nous avons commencé, le mot, le terme n'existe pas, mais maintenant c'est tout à fait présent et c'est intéressant parce que toutes les images qui sont enregistrées sont d'une certaine façon une forme de selfie parce que le dispositif qu'on a décidé dès le moment où nous avons commencé de filmer, c'est qu'elle est toujours dans le même endroit, la caméra est toujours dans le même endroit. Moi, je pousse le bouton sur la caméra et je m'absente. Alors, c'est vraiment elle avec la caméra et elle qui présente son image vers la caméra tout le temps, pendant les 84 minutes, chaque mois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. C'est comme un rituel qui reste le même pendant toute cette année. Et c'est le même dispositif avec Warhol qui a mis ses amis et tous les gens qui sont passés dans son usine devant la caméra et laissez-les avec la caméra et cette obligation de rester devant la caméra, de rester devant l'œil qui observe.
Ce qui me fait penser, Mélanie Manchot, tout à l'heure, vous disiez que la question de savoir comment présenter des images était une question qui était en permanence en vous, tant d'un point de vue esthétique, éthique que politique, à une autre série que vous présentez en ce moment au Macval à Vitry et qui voit se déshabiller lentement des agents de sécurité dans des attitudes qui appartiennent à chacun des agents, qui ne se comportent pas exactement de la même manière et qui vont ou bien jusqu'à une nudité totale en fixant la caméra ou bien en gardant leur slip et en regardant autour d'eux. Il y a vraiment une grande négociation de leur propre espace intime, pudeur par rapport à la fois à la caméra, à l'espace public dans lequel ils se trouvent, et presque comme s'ils avaient conscience de l'espace d'exposition que nous représentons par la suite. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez travaillé cette œuvre-là ?
Là, il y a une relation entre security et comment la caméra est mise en face d'un sujet, d'une personne, d'un personnage. Et le dispositif que j'ai élaboré avec Billy, avec dans 11-18, parce que dans les deux œuvres, c'est très important que j'ai mis la caméra et laissé la personne avec la caméra seule. C'est la même dispositif dans sécurité. Où dans cette œuvre, je travaille avec 7 hommes qui travaillent comme videurs de clubs. En Ibiza, et ce sont les 7 clubs les plus célèbres qui à ce moment-là s'appelaient les super clubs. Et j'ai demandé à chacun de retourner pendant la journée et sur la porte où ils travaillent le soir, la nuit, et d'arriver avec les vêtements qu'ils mettent dans la nuit, qui leur donnent le rôle d'être un homme de sécurité. Alors c'est vraiment avec tout le radio et tous les trucs qui sont nécessaires d'arriver pendant la journée et d'enlever le rôle jusqu'au moment où ils sont tout à fait nus. Et c'est encore une fois la même situation où la caméra est arrangée et je laisse lui avec la caméra seule et je m'absente parce que pour moi c'est important que cette geste de se déshabiller, c'est une question pour lui de se confronter soi-même et la caméra, ou la caméra comme un miroir, mais pas de se déshabiller pour moi. Et c'est absolument pour la caméra et pas pour moi. Et c'est vraiment intéressant comme cette geste assez, encore une fois, comme le baiser, assez quotidien. C'est quelque chose que nous faisons tous les jours, chacun. C'est difficile de le faire à un certain moment devant la caméra. Mais aussi, comme ce geste est une forme de parler de soi-même d'une façon assez explicite, parce que la façon de se déshabiller dit beaucoup. Et c'est la question là est aussi comment nous négocier notre vulnérabilité et notre fragilité chaque fois de nouveau.
Et chaque fois de manière différente, de même puisque vous parlez d'un geste ou de quelque chose qui nous arrive tous les jours ou peut-être chaque nuit, il y a une œuvre où vous allez, où vous approchez, en tout cas on vous imagine vous approcher de dormeurs dans un parc, dans l'espace public, que vous prenez juste au réveil derrière un somme et à qui on imagine que vous demandez de raconter des rêves.
Après ce petit somme, roupillon ou coyotito, comme on dit ici, et bien ce qui me reste en tête après ce rêve, avant que le soleil ne me réveille à force de me brûler le cou, le dos et le visage, c'est en gros que nous allions, je ne me rappelle pas si je connaissais les autres, vers une tour blanche au milieu des montagnes entourées de nuages. Nous étions là et personne ne pouvait me dire ce qu'était cette tour blanche, de quoi elle était faite et où elle était située. Mais nous étions tous en train d'y aller, n'est-ce pas? C'est ce que je me rappelle le plus clairement dans ce rêve. C'était très court, je ne sais pas ce que je pourrais vous raconter de plus précis. Juste la tour blanche. Maintenant, je me demande où je pouvais bien aller, où j'étais et qui m'accompagnait. En gros, ce serait l'essence de ce rêve.
Et nous voilà rendus un petit peu plus loin dans votre rétrospective. En tout cas, c'est comme si on s'enfonçait un peu dans la ville nocturne de que représente cette rétrospective Mélanie Manchot au Macval. Et on arrive à une sorte de rond vert, une sorte de pelouse codifiée avec des moniteurs encore. Et on voit des corps qui dorment et puis à tour de rôle des hommes et des femmes qui racontent le rêve. Et l'une des questions qui vient, ce n'est pas qui sont-ils ou où dorment-ils, mais comment avez-vous fait?
J'ai filmé cette œuvre au Mexico City et la question c'était vraiment un peu comme dans quelques autres œuvres dont nous avons déjà parlé, une question de encore une fois de l'intimité. Comment est-ce qu'on peut faire un enregistrement, une observation d'une situation intime? À Mexico City, c'est très souvent que les gens s'endorment dans les parcs. En fait, les parcs, les espaces publics sont utilisés d'une façon assez différente. Les gens, ils dansent, ils font des célébrations, ils sont avec leur amant dans les parcs parce que la ville est tellement grande qu'il faut utiliser les espaces publics d'une façon différente. Alors, beaucoup de gens qui ont de musons, qui sont juste, ils ont une demi-heure entre finir le travail et rencontrer un ami, ils vont dans les parcs et ils s'endorment pour une petite minute. Alors, je pensais que c'est intéressant parce que c'est pas tellement présent à l'Angleterre, mais c'est aussi un climat différent, c'est une culture différente. Mais là, je me posais la question si c'est possible de faire une collection de quelque chose qui est absolument intime, les rêves. Et les rêves, ils sont intimes parce que c'est tellement difficile de les raconter. Chaque rêve qu'on raconte, c'est une traduction, c'est pas le rêve même. C'est impossible de le raconter. Il faut le traduire et le modifier pour le mettre dans les mots qui font du sens. Alors, c'était vraiment la question, encore une fois, très ouverte. Et peut-être la question, c'est en fait pas possible de le collectionner, mais d'essayer de me mettre dans une position de filmer les gens qui sont endormis pendant quelques minutes ou parfois pendant 2 heures, de rester avec eux dès le moment où je le trouve jusqu'au moment où se réveille et de demander après si ils se souviennent d'un rêve et si ils peuvent me raconter le rêve de ce moment-là.
D'une certaine manière, c'est comme une sorte d'œuvre miroir à A Moment Between Strangers, où vous demandiez à des personnes que vous ne connaissiez pas de vous donner un baiser. C'est un geste qui peut se rapprocher, Mélanie Manchot.
Absolument. Et ce sont des, pour moi, ce sont deux œuvres qui ont une relation très, très forte. Oui, absolument. Et là, ce qui, pour moi, c'est intéressant, d'une certaine façon, j'avais l'impression de les protéger. Dès le moment où je suis arrivée et voir, j'ai trouvé quelqu'un qui était endormi, je suis restée là, comme je disais, tout le temps jusqu'au moment où il se réveille. Et c'est, si ça dure 2 heures, 3 heures, je reste là pendant tout ce temps-là. Et c'était intéressant que la plupart des gens étaient contents que j'avais là pendant tout ce temps-là. Et on avait des conversations très ouvertes et parfois même émotionnelles, parce que quelqu'un a rêvé quelque chose il y avait une émotion qui s'est attachée au rêve. Et les gens étaient très, très, très ouverts. Alors, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce moment de se réveiller où on est dans un monde complètement autre, pas dans la réalité même. Et cette transition très, très courte pendant peut-être une minute au moins à la réalité et d'avoir l'occasion ou l'opportunité d'enregistrer, de filmer cette transition entre le rêve, le sommeil et la réalité, c'était vraiment le centre de ce travail-là.
Et si on avance encore, et si même on prend une sorte de petit virage dans cette grande rétrospective, on arrive sur une œuvre qui n'existe pas complètement, quoi qu'on pourrait considérer, Mélanie Manchot, qu'elle commence dès l'inscription au mur. Il y a un néon, une affiche, ce néon dit « casting » et on va prendre quelques inspirations.
On a attendu ton âge sur la lettre, quel âge as-tu ?
J'ai 14 ans.
T'as 14 ans ?
Oui.
Ah ben c'est un peu vieux, là, pour les rôles si beaux.
Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein.
Ah bon ? Tu parais 12 ans et demi, tu crois ?
Bah je pense. Et puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Ben,
c'est gouailleur ?
Oui. Ah bon ? C'est pour ça, parce que le gars penseur, moi...
Non.
Mais
tu vas en classe où ?
Oh ben ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement.
Ah bon ?
Ça me fait des vacances, quoi.
Ouais. Sinon, ça tu fait, es en pension
quoi, là ? Oui, je suis en pension interne, quoi. Interne. Je sors juste aux grandes vacances.
Mais là, ils vont pas être contents, alors, de te voir manquer comme ça.
Oh, mais eux, ça fait rien, du moment que je suis content.
Ah bon ? Je suis ancienne. Et ta maman joue, hein, au cinéma ?
Oui, oui, aussi.
Quel nom, comment elle s'appelle ?
Jacqueline Pierreux.
Ah ouais ? Et tu connais Monsieur Debarquis, je vois.
Oh ben moi je connais pas grand monde, c'est ma mère qui le connaît, puis alors on l'a rencontré sur les Champs-Élysées.
Ah bon ?
Alors ma mère justement elle a dit tiens, monsieur, enfin un ami, il veut, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors il a dit il y a mon fils, hein. Puis il a dit bon ben envoyez-le de ma part, puis alors de ma part on a envoyé une lettre de sa part.
Il est gentil monsieur Marquis ?
Oh ben vous savez je l'ai vu 5 minutes, enfin il semble très gentil,
ouais.
Sur la route comme ça.
Ouais. Dans la vie tu es plutôt triste ou gay ?
Oh moi je suis gay, je suis pas triste.
Ah bon ? Bien
coupé. C'est le casting qui précède les 400 coups. On entend ici Jean-Pierre Léo, tout jeune garçon, pour évoquer cette dernière œuvre ou cette œuvre à venir avec vous, Mélanie Manchot. C'est un casting où qui est invité à faire quoi ?
Alors, cette œuvre est d'une certaine façon vraiment une œuvre totalement nouveau pour moi, une méthodologie, une démarche absolument nouveau de plusieurs perspectives. C'est une invitation aux gens, soit comédiens professionnels, comédiens amateurs, des gens de la public, le public, de se proposer pour un casting et de présenter un rôle que eux sont décidés, c'est-à-dire le rôle de leur vie, le rôle qu'ils aimeraient présenter, le rôle qu'ils ont le plus envie de jouer une fois dans leur vie. Et ça, c'est un peu l'inverse d'un casting plus général où on a un texte, un scénario, Et le scénario a des rôles et les gens se proposent pour un certain rôle. Ici, c'est l'inverse. Il n'y a pas un scénario. En fait, les gens proposent des rôles, n'importe quoi, soit un rôle de fantasme, un rôle qui a un lien à leur propre vie, des rôles qui existent dans la littérature, des personnages historiques. C'est complètement ouvert. Et c'est aussi pour la première fois que je travaille là pour ce travail avec un scénariste. Je travaille avec Elena Vilovic, qui est une auteure et scénariste. Et on regarde ensemble tous ces castings, tous ces auditions. Et c'est autour des gens qui se présentent qu'on va écrire un scénario pour eux. C'est-à-dire, ce sont comme des comédiens qui cherchent une histoire, qui cherchent une narration. Et pour moi, c'est intéressant parce que la raison pourquoi je suis tellement intéressée dans les castings, c'est vraiment que le casting est un moment où les gens sont entre des façons différentes d'être. C'est-à-dire, on arrive comme personne avec un nom ex, comme moi, Mélanie, je suis comédien, et j'entre dans un rôle. Alors, ce sont des niveaux différents d'être. Et un casting là, c'est encore une fois une mise en abîme en plus, parce que là, les gens, ils imaginent une histoire, une narration pour laquelle ils peuvent se proposer et se postuler. Et on a déjà fait un week-end des castings. On a déjà deux en plus. Et le film même va être tourné dans le musée. Alors c'est aussi quelque chose de nouveau pour moi de transférer l'idée de production dans le musée même. Alors le musée même devient la scène de production. Et pour arriver à ça, on va déinstaller l'exposition une semaine avant le fin de l'exposition, c'est-à-dire le dernier jour de l'expo même sera le 17 février. Et la salle même, avec tous les dispositifs, avec l'architecture, va devenir notre scène. Et dans cette scène-là, comme une Docville, comme une scène de Docville, on va tourner le film la dernière semaine de février.
Eh bien, merci beaucoup, Mélanie Manchot. On a hâte de voir Open Ended Now. C'est donc visible en l'état jusqu'au 17 février. Puis ensuite, on peut inviter toutes les personnes qui nous écoutent à venir participer à ce casting pour figurer dans le film final. C'est au Macval à Vitry. Et il y a un catalogue qui porte le même nom, Open Ended Now, qui est édité.
Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qu'est-ce qui viole les filles, soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville.
Au son ce soir, c'était Marie Le Peintre, à la réalisation Charlotte Roux. Un grand merci à Lou Quevauvillier, Anna Baron, Jeanne Aléos, Romain Debec-de-Lièvre et Marianne Chasseur qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de Par les temps qui courent et on vous souhaite une très belle soirée.
Quand on arrive en tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut prendre en attendant. Quand on arrive en vie. Alors
Préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive, quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. En agissant mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive à...
Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans.